Sylvie Jurietti, directrice du musée départemental de préhistoire des Gorges du Verdon à Quinçon, présente le programme des animations, expositions et événements pour cet été au musée comme sur le Préhistocyte. Elle évoque également la rénovation toute récente de l'escarpé sentier de randonnée menant à la grotte de la Bombonne, site notamment remarquable pour son occupation sur une période de près de 400 000 ans. Responsable de la réfection du sentier, projet financé par l'Europe, nous entendrons également Sébastien Aubergier, responsable des activités de pleine nature pour le département des Alpes de Haute-Provence. On notera que de brefs parasites dus à des connexions de téléphone portable parfois polluent cette interview. Sylvie Jurietti, puis Sébastien Aubergier. Sylvie Jurietti, cet été, quel est le programme des animations et des expositions?
Alors les expositions, il y en a deux. Il y a l'exposition néolithique les villages de Chalin et Clairvaux, patrimoine de l'humanité, qui sont consacrés à des villages qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, des villages jurassiens, mais qui parlent aussi du néolithique en Provence. C'est une exposition qu'on présente parce qu'elle fait écho aux ateliers qu'on propose, notamment la chasse à l'arc, faire du feu. Et ça nous parle aussi du silex de Fort-Calquier, puisque dans le Jura, on trouve des poignards en silex qui proviennent de cette région. Et puis on a une deuxième exposition qui est issue d'un partenariat avec l'IDBL, l'école d'art de Digne. Donc là, les auditeurs libres des ateliers de l'IDBL ont travaillé sur la notion de fragments en archéologie. Fragments préhistoriques, mais ils ont aussi travaillé sur quels sont les fragments qu'on laissera de nos sociétés contemporaines. Donc les œuvres sont présentées au premier étage du musée.
Alors le musée a également deux autres sites. Tout d'abord le Préhistocyte, où vous avez également des animations. Le Préhistocyte qui est assez récent maintenant.
Alors le Préhistocyte, il a été inauguré il y a un an, mais maintenant on a bien pris nos marques au sein de ce parc avec les reconstitutions d'habitat. Et tous les ateliers animés par les médiateurs ont lieu dans ces espaces. Donc cet été, on multiplie les propositions. On s'est adapté un petit peu au climat. Donc les animations du matin seront plutôt des animations en extérieur, la chasse par exemple. Et puis l'après-midi, on propose des ateliers plutôt dans les maisons pour être un peu au frais. Donc autour de la parure, de la poterie par exemple. Donc il y a des créneaux tous les matins, tous les après-midi. Certains créneaux sont bilingues, anglais-français. Et donc il faut aller voir le site internet pour avoir le programme exact et pouvoir s'inscrire par téléphone.
Outre ces interventions et les ateliers qui sont vraiment très intéressants, on peut ajouter que c'est un site qui est vraiment extrêmement bien réalisé par les architectes. C'est vraiment un très beau site, tout près du musée.
Oui, c'est vraiment un atout pour le musée d'avoir cet espace extérieur qui vient compléter un peu le discours du musée. Au sein du musée, on présente essentiellement des habitats en grotte. Et donc, on contrebalance un peu les choses avec le Préhistocyte qui, lui, parle des habitats construits en plein air avec différentes techniques d'architecture dont certaines reviennent un peu au goût du jour.
Alors, il y a un autre événement, c'est le 23 juillet, qui se déroulera d'ailleurs en partie au Préhistocyte.
Oui, donc le 23 juillet, ce sera notre traditionnelle fête de la préhistoire, donc avec un certain nombre de partenaires, l'INRAP, le service départemental d'archéologie, le musée de Salagon musée et jardin, avec le parc aussi du Verdon, les éco-gardes seront présents avec le centre Astro. Un certain nombre de partenaires et de prestataires qui viennent présenter des éléments autour de la préhistoire et notamment des activités. On apprendra par exemple à moudre les céréales comme au néolithique, puisque la thématique qui est retenue, c'est celle de l'exposition temporaire principale.
Et les animations habituelles du musée également, la taille du silex, le feu, etc.
Oui, effectivement, les médiateurs continueront de proposer durant cette journée de faire du feu sans allumettes et puis de chasser. Et il y aura une démonstration de taille de silex avec l'idée de refaire une flèche comme au néolithique, puisque dans les vitrines, on a une flèche qui est encore emmanchée.
Doit-on s'inscrire ou comment doit-on procéder si on souhaite participer à ces ateliers? D'abord, sont-ils ouverts à tous?
Alors, les ateliers sont bien sûr ouverts à tous et effectivement, il faut s'inscrire absolument en téléphonant au musée pour pouvoir s'inscrire sur les créneaux, donc au 04 92 74 09 59.
Alors nous voyons aussi aujourd'hui pour une rénovation, peut-être, appeler ça comme ça, du chemin d'accès à la grotte de la Bombonne. Alors tout d'abord, quelle est cette grotte?
Alors la grotte, c'est la grotte la plus emblématique des découvertes qui ont été réalisées avant la construction des barrages sur le Verdon. La plus emblématique parce qu'elle a la stratigraphie, la succession de couches la plus importante, et elle nous permet de remonter jusqu'à 400 000 ans avant aujourd'hui. On a toute une histoire longue d'occupation au sein de cette grotte qui en fait un site majeur.
C'est un site qui se trouve assez remarquable et qui se trouve en plus dans un bel endroit, juste au-dessus du Verdon, au-dessus du barrage à Quinçon. Enfin, je pense qu'à l'époque, ça devait pas être tout à fait la même hauteur.
Non, c'était évidemment une hauteur plus conséquente. Maintenant, l'eau est beaucoup plus proche, mais effectivement, le site est assez agréable. Donc, on allie à la fois la beauté du site et puis une visite culturelle.
Vous avez effectué des travaux récents dans cette grotte?
Au sein de la grotte, il y a juste eu un nettoyage archéologique. En revanche, c'est le sentier d'accès qui est le gros projet de cette année. Ce projet de réfection du sentier de la Bonbonne s'inscrit dans un cadre européen, puisqu'il s'agit d'un projet qui est financé par l'Europe dans le cadre du projet Alcotra-PEPA, patrimoine et environnement.
Avant d'en venir au sentier, un nettoyage archéologique, ça signifie ?
Alors, la grotte avait été fouillée, les dernières fouilles avaient eu lieu dans les années 90, et donc évidemment, chaque hiver, ça souffre un petit peu. Le nettoyage a consisté à enlever la terre qui s'était un peu accumulée sur les coupes stratigraphiques, donc à faire ça dans les règles de l'art, hein, puisque évidemment, les objets, les quelques fragments d'objets qui ont été récoltés ont été positionnés. Donc, c'est une équipe d'archéologues dirigée par Guillaume Porraz, qui est au CNRS à Nice, qui a réalisé ces nettoyages.
Une grotte qui a réellement été occupée pendant près de 400 000 ans.
Oui, on a toute une succession de différentes périodes avec des phases où effectivement l'homme est absent, mais on a quand même cette succession chronologique qui est remarquable.
Cette grotte de la Bonbonne, pour y accéder, c'est un peu délicat. Alors justement, vous êtes intervenu, Sébastien Aubergier.
Oui, on est intervenu à la demande du musée, parce que le chemin, donc, avec le temps, était devenu un peu glissant.
Ça monte, hein, il faut préciser.
Ça monte raide, c'est du rocher calcaire qui se patine facilement avec les passages. Donc, et puis, il n'avait pas eu d'entretien depuis une bonne vingtaine d'années. On a repris toute l'assise du chemin et on a profité aussi pour reprendre toute la partie thématique qui était un peu pauvre. Avant les travaux, quand on parcourait le sentier avec les médiateurs du musée, donc avec des guides, on avait toutes les informations, mais les randonneurs qui souhaitaient y aller tout seuls, ils n'avaient pas grand-chose. L'idée, c'était à la fois donc, de sécuriser le chemin pour qu'il soit plus praticable, mais aussi pour permettre aux randonneurs non accompagnés de découvrir quelque chose. On a mis en place 3 points thématiques. Un belvédère sur Quinçon, on a réhabilité une ancienne table d'orientation et aussi on a mis 4 panneaux devant la grotte. Actuellement, il n'y avait rien du tout.
Les panneaux qui sont actuellement en place sont des images en fait telles que pouvait se présenter le site sur plusieurs milliers d'années.
Oui, c'est des images qui ont une vingtaine d'années qu'on reprend avec des explications supplémentaires. Mais ça, c'était sur un seul point, on en rajoute 2 autres.
Et pour ce qui concerne la table d'orientation, que va-t-on y trouver ?
La table d'orientation va indiquer les différentes directions que pouvaient emprunter les hommes préhistoriques pour trouver leurs ressources dans l'espace, parce qu'ils ne restaient pas tous au même endroit. Il y avait des migrations saisonnières, à la fois pour passer l'hiver dans un meilleur endroit ou pour trouver des ressources ailleurs. Notamment, par exemple, le silex du Mont Ventoux, il y avait des pierres du côté du Mont Viseau. On va indiquer 4 directions et il y aura aussi un petit panneau pour indiquer les ressources qu'ils trouvaient autour de Quinçon.
Donc ça veut dire qu'il y avait des échanges avec d'autres populations ?
Oui, du troc.
Pour en revenir au chemin lui-même, vous avez ajouté des marches en pierre, en bois ?
Non, tout en pierre. Donc on a dévié le chemin sur une première partie pour passer sur une propriété privée pour laquelle on avait une autorisation. Ensuite, oui, on a mis des marches en pierre un peu tout le long. Il y a eu du terrassement, du débroussaillage. On a repris aussi un escalier métallique et des barrières.
On conseillera quand même aux gens qui viennent de se munir de chaussures, soit de marche, soit de sport.
Oui, oui, il faut être bien équipé pour la randonnée, chaussures, vêtements et surtout de l'eau, notamment l'été.
Sébastien, hormis ces travaux précisément sur ce musée de préhistoire, vous intervenez où ? Vous travaillez pour le département ?
Oui, donc on travaille sur tout le département, on est 3 pour à peu près 7000 km de chemin. On s'occupe de la randonnée pédestre, du VTT, du trail et de l'équestre. On travaille avec les Comcom qui réalisent les travaux, on les finance et on leur apporte un appui technique quand ils en ont besoin.
Parce que ce sont les départements qui sont responsables des sentiers de randonnée, les GR.
Oui, ce sont les départements qui sont responsables du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Après, on délègue des fois ou pas, et par exemple les GR, on finance les comités départementaux de randonnée pédestre. C'est des antennes départementales de la fédération qui les entretiennent pour nous. Et pour les PR, c'est surtout les communautés de communes.